L'accord de Bougival, scruté par plusieurs composantes indépendantistes ce week-end. Vous retrouverez dans un instant la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. L'État continuera à veiller sur la sécurité des Calédoniens. Le haut-commissaire a commenté ce matin les derniers chiffres de la délinquance. Il était notre invité à 7h30. La Calédonie est l'un des premiers territoires à bénéficier d'une nouvelle unité intégrée à la Marine nationale. La cérémonie de prise de commandement de la première escouade de réserve côtière a eu lieu ce matin à Bachalex. Dans la région, un Français de 20 ans interpellé en Australie avec 22 kilos de méthamphétamine. Il risque la prison à perpétuité. 15%, c'est le taux auquel seront taxés les produits européens entrant aux USA. L'Union européenne et les États-Unis ont signé ce week-end un accord en Écosse. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera prolongé par le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Jean-François.
Rideau sur la grande boucle, Pogacar s'est imposé au terme d'une magnifique étape, la dernière sur les Champs-Élysées à Paris.
Le tour qui a trouvé son roi Pogacar. Le cannibale slovène a signé son 4e succès en carrière sur la grande boucle en ayant totalement maîtrisé son sujet. C'est son 2e succès d'affilée sur la plus prestigieuse épreuve de cyclisme sur route au monde. Il a croqué le reste du peloton pour finir avec plus de 4 minutes d'avance sur Vingegaard, son premier poursuivant. Et à tout juste 26 ans, Pogacar a encore les dents longues pour affoler les compteurs sur ce Tour de France.
On reviendra évidemment sur les principaux résultats sportifs sur la scène nationale et internationale en Calédonie. On se rappellera que ce dimanche a marqué le retour des courses hippiques sur l'hippodrome Henri Millard.
Ouais, l'anneau de Lansvata qui a de nouveau vibré pour les courses et l'univers hippique qui retrouvait Nouméa. Un beau public pour cette répétition générale en vue de la Casino Coupe Clark qui prouve une fois de plus la passion des Calédoniens pour le cheval. Après les années 100, on s'attend à une belle édition dans deux semaines sur l'hippodrome Henri Millard de Nouméa.
Et puis avec notre invité, tout à l'heure, nous parlerons voile.
Oui, cap sur les prochains Jeux du Pacifique. La Ligue calédonienne de voile prend la barre pour préparer dès aujourd'hui les champions de demain. Nous évoquerons le programme qui va être déployé pour accompagner nos meilleurs représentants dans deux ans vers les plus hautes marches du podium à Tahiti. Nous recevrons Philippe Naudin, le futur manager de la sélection calédonienne.
On se retrouve donc pour le Mag des Sports dès la fin de ce journal. Le camp indépendantiste et l'accord de Bougival. Plusieurs composantes étaient réunies ce week-end et cet accord était au cœur de toutes les réflexions. L'UPM tenait un comité central extraordinaire à Wailou. Elle a émis un avis favorable sur l'accord signé à Bougival. De son côté, le RDO tenait son comité directeur à Dumbéa. Il a réaffirmé son soutien à son président, Alozio Sacco, qui est l'un des signataires de cet accord. Le comité directeur de l'UC, réuni samedi à la tribu de Gatopavo, a lui été très tendu. Les délégués ont contesté les négociateurs de l'accord qui étaient venus leur présenter le document signé le 12 juillet. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue des travaux et l'UC devrait communiquer dans les prochains jours sur sa position. Une situation qui est au cœur de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir que l'on retrouve tout de suite.
L'UC-CCAT va-t-elle faire exploser le camp indépendantiste ? Le comité directeur réuni ce samedi à la tribu de Gatopavo laisse craindre une telle issue tant les débats ont été vifs, tant le ton est monté entre les protagonistes. D'un côté, les signataires, qui ne sont autres que le président de l'UC, Emmanuel Tchibaou, mais aussi Rocco Amitant et Michael Forest, des personnalités aux histoires très différentes, mais dont la légitimité semblait jusque-là incontestable au sein de la mouvance indépendantiste et singulièrement au sein de l'UC. Eh bien, ils se sont fait bousculer et ils ont subi les invectives de délégués chauffés à blanc qui leur ont reproché avec virulence d'avoir apposé leur signature au bas de l'accord négocié à Bougival. Les négociateurs étaient prévenus, ils savaient que ce comité directeur était celui de tous les dangers. Le communiqué signé dans la semaine par le secrétaire général Dominique Fauchy au nom de la commission exécutive de l'UC ne laissait guère de doute. Tous les observateurs avaient été surpris par la brutalité des termes utilisés. La commission exécutive faisait le constat que les fondamentaux du combat du peuple kanak n'apparaissent pas dans le projet d'accord qui présente de très faibles perspectives de sortir du joug colonial et propose des attributs de souveraineté de façade. En quelques mots, le sort de l'accord de Bougival était scellé. À tel point que l'on a presque été surpris par le ton modéré du communiqué du BP du FLNKS, qui, quelques jours plus tard, se contentait d'émettre un avis très réservé sur le document signé à Bougival. Mais parmi les micro-partis membres du nouveau FLNKS constitué autour de l'UCCCAT, il y a aussi des opposants affichés, comme la DUS qui exprime son incompréhension et sa désapprobation à l'encontre de l'accord signé à Bougival, ou la dynamique autochtone à laquelle appartient Oumera Neslin, qui aurait souhaité retirer sa signature du document. Un ton et des critiques qui contrastent très fortement avec la position du Palika, qui voit dans le projet d'accord une avancée politique majeure, qui qui poursuit les grands objectifs d'émancipation et de décolonisation fixés par les accords de Matignon et de Nouméa, en actant la création et l'émergence d'un État de Nouvelle-Calédonie. L'UPM de Victor Tsoutougourou est à l'unisson, et il y a le cas particulier du RDO, seul membre du nouveau FLNKS, qui semble soutenir l'accord parce qu'il fait confiance à son président qui l'a signé. Dans ce contexte, la fracture s'accroît encore entre les indépendantistes, mais la rupture se fait en fonction de la proximité avec la CCAT. Et si le FLNKS en a déjà fait les frais avec le départ de ses rangs du Palikae et de l'UPM, c'est l'Union calédonienne qui est maintenant au pied du mur et qui va devoir faire des choix déchirants, parce que la cohabitation va devenir impossible entre des dirigeants de l'UC qui ont pris leurs responsabilités et ont choisi de chercher le consensus en signant l'accord de Bougival, et les radicalisés qui refusent tout compromis et restent dans l'esprit qui a prévalu lors des violences insurrectionnelles. Le plus vieux parti calédonien a déjà connu des divisions, mais celle qui s'annonce est véritablement existentielle, et les signataires de Bougival se retrouvent face à un choix cornélien. Dans un tout autre registre, l'actualité calédonienne a aussi été marquée cette semaine par le feuilleton des inéligibilités. On a appris que Philippe Gomès et Philippe Michel vont conserver leur mandat et que Jacques Lallier va être réintégré dans les siens. C'est à n'y plus rien comprendre, sauf que l'on découvre que la Calédonie est le seul territoire français où l'exécution provisoire n'est pas exécutoire. On n'est pas une collectivité sui generis pour rien.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir à retrouver sur notre site internet comme tous les lundis. Vous pouvez aussi la réécouter juste après le flash de 16h cet après-midi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Pensez-vous que l'Union calédonienne va éclater après les tensions internes nées de la signature de l'accord de Bougival ? Si vous pensez que l'UC va éclater, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Le monde économique aussi réagit au projet d'accord signé à Bougival et la CPME est satisfaite de sa signature. Dans un communiqué, elle déclare en effet que c'est à présent aux signataires d'assumer leur paraffe auprès des Calédoniens, Nicolas Legrand.
Oui, pour la CPME, ce projet d'accord doit avant tout redonner de l'espoir et du souffle aux chefs d'entreprise, aux investisseurs, aux salariés et même plus largement à la population calédonienne tout entière qui va pouvoir bénéficier de cette création de valeur. Toutefois, la CPME affirme que ce projet d'accord ne suffira pas à sortir la Nouvelle-Calédonie de l'ornière. La CPME qui déclare donc que cette première étape doit se prolonger urgemment pour un accord économique ambitieux fondé sur la stabilité et la confiance. Elle demande des actes concrets et affirme rester mobilisée auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de la mission interministérielle présidée par Claire Durieux.
Et je vous rappelle que les élus du Congrès siégeront aujourd'hui boulevard Vauban pour examiner deux textes, notamment un projet de loi du pays qui institue des mesures de soutien à l'emploi. L'autre texte est un projet de délibération pour créer un dispositif d'aide à la continuité pays. La séance doit débuter à 13h30. Le haut-commissaire Jacques Billon était notre invité ce matin pour revenir sur le bilan à mi-année de la délinquance. Il s'agit des chiffres de janvier à juin 2025 et ils sont plutôt inquiétants. L'une des tendances, c'est la progression très forte des violences contre les policiers et les gendarmes avec une hausse de plus 96,6%. Depuis le début de l'année, 110 gendarmes et 2 policiers ont été blessés. On note aussi une très forte augmentation des incendies volontaires, plus 86,3%. Et une augmentation de 28% des cambriolages de résidence. Dans ce dernier cas, il s'agit, selon les autorités, de cambriolages de la faim destinés à se procurer de la nourriture. Ces chiffres sont un comparatif avec le premier semestre 2023, souligne le haut-commissaire, puisque l'année 2024 a été une année hors norme en raison des émeutes de mai.
J'insiste sur le fait que nous revenons à des chiffres comparables à ceux qu'on avait connus au premier semestre 2023. Ce sont 10 500 faits qui ont été recensés au cours de ce premier semestre. C'est le même niveau de faits constatés qu'au premier semestre 2023. Pour autant, la situation reste tendue pour les trois raisons suivantes, et j'insiste sur ces trois raisons. Le sentiment d'insécurité qui demeure fort chez nos concitoyens, la nature des faits plus violents et une délinquance d'appropriation en hausse. Ce sont les cambriolages auxquels nous faisions référence. Et ça, c'est le signe d'une paupérisation sociale qui a augmenté au cours de ces derniers mois. Face à cela, bien évidemment, les forces de sécurité intérieure, policiers et gendarmes sont totalement mobilisés pour lutter contre cette délinquance qui évolue donc dans sa nature et dans son intensité. Et je n'ai toujours qu'un maître mot, c'est être là où il le faut, quand il le faut, développer notre potentiel logiciel d'investigation pour mettre le plus rapidement possible hors d'état de nuire les auteurs des faits délictueux, les auteurs de troubles à l'ordre public, et travailler en étroit partenariat avec les maires, avec les provinces et avec le gouvernement.
Les effectifs des forces de l'ordre avaient été fortement augmentés l'an dernier pour faire face à la situation insurrectionnelle. Ces effectifs sont maintenus, affirme le haut-commissaire.
C'est toujours le cas. Ce sont des 1600 policiers et gendarmes qui sont mobilisés sous mon autorité en Nouvelle-Calédonie. Ils sont pleinement actifs sur le terrain dans le cadre d'une manœuvre que je fais évoluer en permanence en fonction des constats que nous pouvons opérer sur le terrain. Nous avons toujours les 20 escadrons de gendarmes mobiles en renfort et disponibles pour œuvrer contre la délinquance.
Est-ce que vous allez les garder ? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il va pas falloir libérer ces effectifs de forces de l'ordre pour les mettre ailleurs ?
Je suis engagé dans cette manœuvre de lutte contre la délinquance pour assurer la sécurité de tous nos concitoyens. Donc les forces, il est prévu que je les conserve autant que de besoin. C'est ce qui avait été annoncé dès le départ par le ministre d'État, ministre des Outre-mer. Donc je continue de manœuvrer avec l'ensemble des forces placées sous mon autorité. Soyez-en sûrs.
Le haut-commissaire qui fait état également de dispositifs particuliers pour sécuriser les points sensibles. C'est le cas pour les établissements scolaires ou encore pour les stations-service. Une interview du haut-commissaire Jacques Billon interrogé par Elisabeth Noir à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. 11h42, on va marquer une première pause dans ce journal et dans un instant, ce sera le reste de l'actualité en Calédonie, mais aussi l'actualité dans la région.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie ? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Après le drame, il faut se relever et repartir ensemble. Ce sont les mots de Rémi Vanal, l'un des quatre directeurs du lycée d'Okamo, alors qu'un culte était organisé ce matin dans l'établissement scolaire, Léo Fichou.
Et oui, jeudi dernier, peu avant, après 20h, le phare du lycée était incendié. Une enquête est d'ailleurs ouverte pour déterminer les causes du sinistre. L'établissement n'avait pas ouvert ses portes. Le lendemain, vendredi, les odeurs de fumée pouvaient causer des gênes respiratoires. Les cours ont finalement repris ce matin après un moment de culte entre la direction, l'équipe enseignante, les élèves et quelques familles, tous affectés par l'incendie du Faré. C'est le cas de Christelle Nigaille, enseignante du lycée d'Okamo depuis 2018.
Quand j'ai su que le Faré a pris feu, donc déjà ça m'a affectée. J'ai dit je ne dors pas tant que je ne vois pas ce qui s'est passé. C'est mon lycée, c'est mon lieu de travail. Donc même si le Faré, il était surtout utilisé pour les journées, pour les moments de détente, on sait qu'on pouvait toujours se réunir en dessous le Faré avec les élèves. Mais ça m'affecte du fait que ça fait partie de nous. Quelque part, on est obligé d'en parler parce qu'on a tous ce besoin-là. Nous, c'est bon, peut-être on a eu le temps de le faire vendredi en nettoyant, mais après, il y a les élèves aussi, les parents. Même si le lycée il a subi quelque chose, on avance quand même, malgré tout.
Et le culte de ce matin, un moment de partage important pour Rémi Vernal, l'un des directeurs du lycée d'Okamo.
Le culte, les gestes sont là pour repartir, montrer aux élèves que malgré ce qui s'est passé, l'événement, il faut se relever et repartir pour leur permettre d'obtenir leur bac, leur examen cette année. Le Faré est le symbole de d'Okamo, c'est le lieu où nous réalisons la plupart de nos gestes coutumiers, le centre de vie de l'établissement. On fera le nécessaire pour reconstruire notre symbole.
Un comité de reconstruction devrait être mis en place pour discuter et décider du futur du phare et du lycée d'Okamo, incendié, je le rappelle, jeudi soir dernier.
L'actualité des forces armées maintenant avec ce temps fort à la base Chalex ce matin. Une cérémonie était organisée en effet pour la prise de commandement de la première escouade de réserve côtière, Michael Juneski.
Une escouade avec pour le moment 15 membres, tous réservistes opérationnels, avec tout de même une expérience maritime et à qui on va confier des missions, prévention, reconnaissance, observation, éventuellement concourir à d'autres objectifs en cas de besoin. Le capitaine de vaisseau Julien Faure, commandant de la base navale de Nouméa.
C'est un moment important pour la base navale, puisque cette escouade qui vient d'apparaître, c'est une compétence nouvelle que la base navale est capable d'offrir aux commandants de zone maritime pour ses missions dans le lagon ou au-delà en Nouvelle-Calédonie. Il dispose aujourd'hui d'un bateau qui est un semi-rigide d'un peu moins de 8 mètres et qui est richement motorisé. Et on aura à terme probablement une deuxième embarcation, ce qui permettra d'augmenter le nombre de missions qu'on est capable de réaliser sur le plan d'eau. C'est important, ça nous ancre encore plus dans le territoire, dans le lien avec les Calédoniens, parce que ce sont tous des gens qui ont une autre activité à l'extérieur. C'est important de toute façon de développer la réserve opérationnelle, parce que c'est un lien très très important entre les armées et la société. Et là, avoir des Calédoniens qui endossent l'uniforme et qui viennent servir avec nous, c'est une vraie richesse pour la base navale. On doit monter en puissance progressivement. Là, je pense qu'on a déjà les candidats pour l'année 2025. Par contre, toutes les candidatures sont évidemment bienvenues parce qu'on peut servir comme réserviste au sein de la Marine nationale dans les squads de réserve côtière, mais pas que. Il y a d'autres postes au sein de la base navale. Toutes les candidatures sont les bienvenues et il y aura toujours une croissance. Il y aura des postes supplémentaires en 2026.
À la naissance de cette nouvelle unité calédonienne, avec une prise de commandement donc qui se déroulait ce matin, et le capitaine de corvette Marc Batté, ancien de la Marine nationale, sur le Jacques Cartier, qui a pris le commandement de cette escouade.
L'escouade de réserve côtière est constituée en majorité de, je vais employer un terme barbare, d'ab initio, qui veut dire des gens issus du monde civil. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la vie militaire et qui ont l'envie de servir dans la marine nationale. Des fois sur le tard, j'ai des gens qui ont plus de 60 ans, j'ai aussi des jeunes de 18 ans, mais tous ont cette même volonté. Pour compléter l'escouade de réserve côtière, nous avons des anciens de la Marine nationale, dont je fais partie, et aussi des officiers mariniers et des majors. L'ambition, c'est d'obtenir 70 contrats dans 2-3 ans. On va largement atteindre ce contrat, et peut-être même qu'on sera obligé de demander de nouveaux postes. Nous avons des équipiers ici qui peut-être connaissent un peu le monde de la mer, mais pour certains n'ont pas trop navigué, mais on les forme. On leur apprend le béaba, on leur apprend aussi la discipline militaire, et rapidement, en fait, avec la volonté, l'enthousiasme, on en fait des vrais marins. Dans un premier temps, le bateau qui est là, il vient juste d'arriver de métropole, il y a une phase d'essai, et ensuite, on va déployer ce bateau comme un bateau de la Marine nationale, pour des missions militaires, qui sont des missions de surveillance, de prévention, et de renseignements.
Cette escouade a été créée dans le cadre de la loi nationale de programmation militaire 2024-2030 avec les Antilles et la Nouvelle-Calédonie qui sont les premiers à bénéficier de ce dispositif.
L'actualité dans la région maintenant avec d'abord ce jeune touriste français interpellé par la police fédérale australienne. Il voyageait sur le territoire australien avec 22 kilos de méthamphétamine. Le récit de Jean-Pierre Zajac.
Âgé de 20 ans, le touriste français est arrivé à Sydney à bord d'un vol en provenance d'Amsterdam. Lors d'un examen dit de routine de ses bagages, les agents de la police aux frontières ont découvert 22 pochons sous vide qui contenaient chacun 1 kg de méthamphétamine. La valeur à la revente de la drogue a été estimée à une somme équivalente à 1,334 milliard de nos francs. L'affaire a donc été confiée aux agents de la police fédérale qui ont arrêté le touriste et l'ont inculpé pour trafic de stupéfiants, un crime passible de la réclusion à perpétuité. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et puis l'actualité dans la très grande région avec ces vives tensions entre la Thaïlande et le Cambodge. Depuis jeudi, les affrontements entre les deux pays voisins ont fait au moins 30 morts et ont obligé 130 000 personnes à quitter les zones de conflit. Au niveau de cette frontière entre les deux pays, longue de 800 km, Nicolas.
Oui, les deux pays revendiquent plusieurs zones le long de cette frontière. Le point qui cristallise les tensions est bien le temple de Preah Vihear au Cambodge, revendiqué par la Thaïlande. Une bataille symbolique pour montrer le passé glorieux des deux pays et notamment son influence sur le bouddhisme. Les relations étaient déjà tendues depuis le mois de mai et la mort d'un soldat cambodgien lors d'un accrochage. Et ce qui a mis le feu aux poudres en fin de semaine dernière, c'est l'explosion de deux mines antipersonnelles à la frontière. Mines qui ont blessé grièvement deux militaires thaïlandais. La Thaïlande accuse le Cambodge d'avoir placé ses explosifs par-delà la frontière. S'en est suivi un échange de tirs de mortiers et des bombardements aériens. Cela fait depuis 2008 qu'il n'y avait pas eu de conflit direct entre les deux pays. Alors ce fameux temple qui est disputé se trouve à moins de 500 km à vol d'oiseau de Bangkok où se posent depuis fin 2024 les avions d'Air Kalin. Alors ce n'est pas la seule zone de conflit, mais en tout cas maintenant il y a plusieurs secteurs qui sont impactés. Pour le moment il n'y a pas d'alerte des autorités de tutelle de la sécurité de l'aviation civile au niveau français et européen. Il n'y a pas d'alerte ni de recommandation d'éviter de survoler l'espace aérien de ces territoires. Pour autant, depuis vendredi, Air Kalin a mis en place une cellule de surveillance qui se réunit s'éloignent une fois par jour. Et par mesure de précaution, la route a été légèrement modifiée pour s'éloigner au maximum des combats. Les avions passent désormais à 200 km de la zone de conflit la plus proche. Une décision qui rallonge le temps de vol de quelques minutes, 10 à 15 pour le Nouméa à Bangkok et 5 minutes pour le retour. Étant donné les mesures prises et le fait qu'il n'y ait pas de recommandation, ACI n'est pas tenu de rembourser les billets de ceux qui annuleraient leur voyage en raison de ce conflit.
Il est 11h51. Dans un instant, on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde, et notamment cette signature d'un accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole et dans le monde, on retrouve Jean-François Bodin.
Et après des mois de tensions, de bras de fer et de négociations, les États-Unis et l'Union européenne ont signé un accord sur les droits de douane imposés par l'administration Trump. Le président américain a signé cet accord en Écosse avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Au final, tous les produits européens entrant aux États-Unis seront taxés à 15%. Alexis Bourdon pour Europe 1.
Donald Trump avait prévenu, il ne voulait pas faire de cadeaux. Et après un peu plus d'une heure d'échange, c'est donc sur un accord à 15% qui concerne la plupart des secteurs qui a été conclu avec l'Union européenne. Avant cette réunion au sommet, les deux parties évaluaient les chances de pouvoir trouver un accord à 50-50. Pour le président américain, il s'agit d'un bon accord, le qualifiant de plus grand jamais conclu en matière de commerce et en y voyant une promesse d'unité et d'amitié. L'UE s'est également engagée à 750 milliards de dollars d'achat d'énergie américaine pour remplacer le gaz et le pétrole russe et à 600 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis. De son côté, la présidente de la Commission européenne s'est réjouie après un accord qui, selon elle, apportera de la stabilité des deux côtés de l'Atlantique. Ursula von der Leyen a également assuré que des secteurs stratégiques comme l'aéronautique seront taxés à 0%. Cet accord intervient 5 jours avant la date limite fixée par l'administration Trump pour l'entrée en vigueur des droits de douane.
15% sur tous les produits européens, on est loin des 30, voire plus, brandis par Donald Trump. Pour autant, de nombreux économistes considèrent que l'Union européenne est sortie perdante de ce long bras de fer. C'est en tout cas l'avis de l'un d'entre eux, Christophe Saint-Étienne, interrogé par nos confrères d'Europe 1.
C'est un échec pour l'Europe. Quand les négociations ont commencé, la Commission européenne visait 0%. Ensuite, 10% semblait le maximum acceptable. 15%, c'est un échec. Évidemment, von der Leyen crie victoire après un échec. C'est de la politique. Mais sur le plan stratégique, c'est un très mauvais accord. Il a négocié avec nous, comme avec le Cameroun ou avec l'Afrique du Sud. Donc, on voit que la Commission européenne n'a pas pu ou n'a pas été capable d'utiliser tout le poids de l'Europe dans cette négociation.
Christophe Saint-Étienne, membre du Cercle des économistes. L'actualité en métropole, confrontée à une forte augmentation de l'utilisation de drogue. La consommation a été multipliée par 3 en 10 ans, ce qui ne manque pas d'inquiéter bien sûr les autorités sanitaires, mais cette situation a aussi des conséquences sur les urgences hospitalières, comme l'a constaté Marco Beaugrand au CHU de Toulouse.
Les patients se présentent aux urgences par exemple pour des crises d'hypertension ou des douleurs dans la poitrine, des symptômes corrélés à la prise de cocaïne particulièrement addictive et dangereuse, explique Maryse Lapermestre, responsable du centre addictovigilance d'Occitanie.
C'est un produit qui restreint le périmètre des grosses artères. C'est pour ça qu'il y a des effets cardiaques. Et donc, on a vu continuer à augmenter les recours aux urgences pour des complications psychiatriques, qui parfois ne sont pas réversibles, mais aussi des complications cardiovasculaires, donc des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux. Ce sont les effets de la cocaïne.
La cocaïne est la deuxième substance illicite la plus consommée derrière le cannabis et l'on assiste à une banalisation grave de cette drogue selon la médecin au CHU de Toulouse.
Cette année, un quart des cas qui nous remontent concernent la cocaïne. Il y a 5-6 ans, c'était moins de 10%. Et puis un élargissement aussi des caractéristiques de la population utilisatrice. Ça fait quand même des catastrophes et ça monte, on a l'impression que c'est inexorable comme croissance.
L'Occitanie est la troisième région de France où le taux de passage aux urgences à cause de la cocaïne est le plus élevé. En cause, l'accessibilité simplifiée par la proximité du territoire avec l'Espagne.
Le reportage de Margot Bongrand pour Europe 1 à 11h55.